Bain.
Et dans cette édition, on ira au tribunal administratif. Il était question de voileux sans solution et d'un prof de philo interdit d'accès à son lycée. On parlera de cette nouvelle plateforme de dons lancée par Tahiti Tourisme. Et enfin, vous entendrez la candidate numéro 6 à Miss Tahiti, l'une des favorites. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabriau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
On commence donc Lucie par ce navire qui inquiète les autorités depuis de longues semaines.
Oui, on vous en a parlé, le Rami, un navire de pêche mexicain qui avait été intercepté par l'armée à la toute fin de l'année dernière, le 23 décembre, avec plus de 500 kilos de cocaïne à bord. Depuis, le chalutier est amarré au port autonome de Papeete et semble dans une mauvaise posture. S'agit, était-elle ces dernières semaines, que beaucoup craignaient qu'il coule à quai et les regards étaient tournés vers l'État pour intervenir. Le problème, c'est que le vieux bateau n'a pas été saisi par la justice, qui s'est contenté de placer son équipage en détention. C'est donc légalement au propriétaire mexicain de s'en occuper et sans surprise, il est aux abonnés absents. Du côté du Haut Commissariat, les services se sont renvoyés la balle pendant des semaines sur la prise en charge des frais de dépollution et de sécurisation. C'est finalement le port autonome lui-même qui est intervenu en faisant retirer des cales les eaux qui s'étaient accumulées et les restes de cargaison qui avaient pourri à bord. Un mélange semi-liquide qui faisait justement tanguer le bateau. Le Rami a aussi été déplacé vers la zone internationale pour subir d'autres interventions. L'état du navire ne présente plus d'inquiétude, explique aujourd'hui le Haut Commissariat qui devra tout de même payer la note au final. Quant à l'armateur, c'est une procédure de déchéance de propriété qui l'attend. En plus d'éventuelles poursuites, le Rami pourra ensuite être vendu, même s'il a peu de chances de trouver un acquéreur local.
Et toujours côté maritime, Lucie, ces voiliers expulsés de la baie de Veirey.
Oui, il s'appelle l'Adamec, le Changi Chamou et le Shark, trois voiliers qui ont été mis en demeure l'année dernière de quitter leur mouillage à l'ancre dans la baie de Punaoya. C'est le port autonome qui gère la zone et qui demandait ce matin au tribunal administratif de prononcer leur expulsion sous astreinte de cette zone où le mouillage hors corps mort est effectivement interdit. Pas de problème pour le rapporteur public qui propose une astreinte de 10 000 francs par jour jusqu'au départ de ces voiliers, dont deux sont habités. Le problème, il se pose fréquemment en Polynésie, c'est que ces bateaux ne savent pas où aller. Le couple de propriétaires du Changi Chamou arrivés de France en 2022 pour rejoindre leurs enfants travaillant au Fénois ont expliqué au tribunal que toutes leurs demandes de bouées et de places au port ont été refusées. Les corps morts du port autonome ne peuvent d'ailleurs pas accueillir leurs voiliers en ferro-ciment qui dépassent les 5 tonnes le poids autorisé. Les deux voileux ont proposé eux-mêmes de payer pour doubler une bouée. Aucune réponse des autorités. Devant les juges, ils ont expliqué chercher des solutions pour se conformer en droit mais n'en trouver aucune. Écoutez.
Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir avoir une bouée à nous pour pouvoir se déplacer, partir en week-end tranquille et revenir à notre emplacement sans avoir d'ennui. Et pouvoir effectivement aussi pouvoir payer nos poubelles, payer notre eau, enfin, faire travailler la communauté normalement, qu'on puisse continuer à vivre ici, travailler, avoir nos enfants. Voilà quoi.
Voilà un des propriétaires du Changi Chamou qui travaille en Polynésie comme ébéniste et qui regrette que les autorités ne lui laissent aucune option. Il précise que les autres sites de mouillage au large de l'aéroport ou à Moréa sont tout aussi remplis et que beaucoup d'autres propriétaires sont contraints de mouiller dans l'illégalité. La décision du tribunal doit tomber le 27 mai.
Et puis aussi au tribunal administratif, ce prof interdit d'accès dans son propre établissement.
Un professeur certifié de philo qui enseignait depuis 2023 au lycée de Tayarapu, c'est au début de l'année dernière que ses rapports avec le proviseur se sont dégradés. L'enseignant originaire de Djibouti estime être victime de discrimination. Le chef de l'établissement, lui reproche de perturber le bon fonctionnement du lycée. Juste avant la rentrée d'août 2024, une décision tombe du côté du ministère de l'Éducation. Le prof de philo est interdit d'accès au lycée, alors même que la procédure ouverte par le vice-rectorat n'aboutira qu'à un petit blâme. Et c'est cette interdiction qu'il contestait devant le tribunal. Et il a eu raison, le rapporteur public estime que ce n'était en aucun cas au ministre de prendre une telle décision, mais au proviseur. L'interdiction risque donc d'être annulée sans trop de conséquences puisqu'elle avait finalement été levée en janvier et que le prof a demandé et obtenu un transfert vers un autre lycée. Mais l'affaire montre que le ministère de l'Éducation de Roni Teripaya a quelques soucis avec les procédures. Sa réforme des rythmes scolaires avait déjà été annulée par le même tribunal.
Du tribunal correctionnel maintenant, avec ce quinquagénaire condamné à 5 ans de prison.
Il avait sectionné la phalange de son adversaire à coup de dents lors d'une bagarre. L'affaire date de mars 2024. C'est une dette de 15 000 francs qui est à l'origine de la rixe. L'agresseur s'était rendu au domicile de la victime pour lui réclamer l'argent. Il a commencé par jeter des pierres sur la maison de son débiteur qui a fini par sortir. Puis ils se sont battus et hop, un claquement de dents, un doigt en moins. L'agresseur souffre de troubles psychopathiques. Il a un lourd passé de violence. Il a été condamné en 2005 par la cour d'assises à 10 ans de prison pour des coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il est actuellement en détention pour menace de mort réitérée et port d'une arme blanche. Le tribunal a décidé de son maintien en détention et l'a condamné à 5 ans de prison ferme avec interdiction d'approcher de sa victime pendant 3 ans. Il devra aussi payer des dommages et intérêts à sa victime. Le montant sera défini plus tard lors d'une audience pour intérêt civil.
Et on continue avec cette nouveauté, les touristes peuvent désormais faire des dons aux associations du Fénois.
Oui, Tahiti Tourisme, en partenariat avec la FAPE et Anaveil, lance aujourd'hui sa plateforme de dons en ligne pour financer des projets compatibles avec le plan Tourisme Durable 2030, un projet en gestation depuis 2 ans et qui répond à la demande de visiteurs mais aussi de résidents en quête de sens. Un site www.hina.pf sur lequel faire des dons qui seront reversés directement à différentes associations polynésiennes. On ne fait pas de greenwashing, on est vraiment dans le concret, insiste Jean-Marc Mosselin, le directeur général de Tahiti Tourisme, qu'on écoute.
C'était une demande déjà depuis de nombreuses années par des touristes eux-mêmes qui souhaitent contribuer au cours de leur visite pour des causes environnementales, culturelles ou sociales au sein de la destination qu'ils ont visitée. Ça se fait de plus en plus et il nous manquait ce lien. Le marché américain est assez sensible à des donations, mais je pense qu'on a beaucoup d'espoir aussi sur les résidents polynésiens qui ne savent pas nécessairement comment contribuer.
La Fédération des associations de protection de l'environnement propose 2 initiatives, celle d'Océania pour créer à Moréa un circuit terrestre d'observation des baleines depuis la Terre et celle des dauphins de Rangiroa pour sensibiliser touristes, résidents et prestataires à la protection de ces animaux de la passe de Tiputa. La Fondation Anaveil, elle, propose 2 autres projets. Run for Dogs pour sponsoriser la participation d'un éducateur canin à l'Ultra Trail du Mont Blanc et lever des fonds pour les 10 associations qui composent l'Alliance pour le respect et la protection des animaux de Polynésie et Va Hiva pour la construction de 2 pirogues à voile et contribue à la renaissance de la navigation traditionnelle. Et à noter que l'invité de la rédaction de Radio 1 lundi prochain sera Veihere Lissan qui succède ce jeudi à Jean-Marc Mosselin à la direction de Tahiti Tourisme.
Le drapeau arc-en-ciel va de nouveau flotter sur la présidence samedi.
C'est la tradition chaque 17 mai depuis 2023. La présidence du pays lève le drapeau LGBT à l'occasion de la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Mais Oscar Temaru n'était pas vraiment d'accord. Il l'avait fait savoir que ce jour devrait plutôt être célébré comme la date de la réinscription de la Polynésie française sur la liste de l'ONU des territoires non autonomes. Le drapeau arc-en-ciel sera bien levé samedi, mais l'un n'empêche pas l'autre. La réinscription de la Polynésie sur la liste de l'ONU sera elle aussi fêtée. Le Tavigny a prévu de se rassembler ce samedi avec Oscar Temaru, Richard Touriava, Anthony Giros et Moetei Broverson qui devraient faire des discours lors d'une cérémonie prévue à Utuarea.
C'était il y a tout juste 1 an, le 13 mai 2024, la Nouvelle-Calédonie connaissait une première nuit de violence.
Les tensions politiques autour du dégel du corps électoral avaient mis la rue en feu et ces émeutes vont durer des semaines. Bilan 14 morts, plus de 200 milliards de francs de dégâts et une crise sans précédent. Un an après, la présidente de la province sud et chef de file loyaliste Sonia Baques a répondu à nos questions. Elle était l'invitée de la rédaction, vous venez de l'entendre. La Nouvelle-Calédonie a du mal à se relever économiquement mais aussi politiquement. Les dernières discussions menées par Manuel Valls n'ont d'ailleurs pas abouti et elle en veut au ministre des Outre-mer qu'elle accuse d'avoir proposé une indépendance déguisée avec un statut de souveraineté avec la France.
Je ne sais pas qui doit reprendre le dossier, mais Manuel Valls, il est arrivé ici en essayant de faire un coup politique personnel. C'est pas à moi de dire qui est qualifié ou disqualifié, mais concrètement, je ne vois pas comment, compte tenu de ce qu'il a fait, il peut réussir à remettre tout le monde autour de la table de manière constructive. Alors, on reviendra toujours autour de la table, mais il y a une rupture de confiance majeure aujourd'hui. Donc il faut que l'État se pose la question de qui gère le dossier calédonien aujourd'hui.
Pour Sonia Baquès, l'État doit donc se poser des questions sur la gestion du dossier et les autres collectivités ultramarines, notamment la Polynésie, doivent s'interroger sur le risque de contagion d'une évolution institutionnelle non choisie en Calédonie.
Je pense que ce qu'a fait Manuel Valls, c'est-à-dire faire une proposition qui est contraire à la volonté exprimée de manière démocratique par les Calédoniens, est de nature à poser question dans les autres outre-mer. La question se posera à Paris, dès l'instant où il y a une évolution institutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie, quelle qu'elle soit, la question de la contagion ou du risque de contagion ou de la volonté de contagion aux autres outre-mer et en particulier ceux du Pacifique se posera forcément.
Voilà, vous pouvez retrouver son interview en intégralité sur notre site radio1.pf.
Et on reste en Nouvelle-Calédonie avec cet appel des députés LFI et des syndicalistes à libérer les détenus politiques kanak.
Des députés de la France insoumise, des membres du Comité international contre la répression et des syndicalistes de la CGT et FO ont organisé une conférence de presse lundi exigeant la libération immédiate de Christian Théin et des détenus politiques kanak. 70 militants indépendantistes kanak sont incarcérés dans l'Hexagone suite aux émeutes. Et pour LFI, il est temps de les libérer, rapporte notre partenaire Outre-mer 360. Pour le CICR, ce sont des colonisés qui luttent pour la liberté de leur pays. Ils n'ont pas à être traités comme des terroristes. LFI ajoute qu'il n'y aura pas de solution en Nouvelle-Calédonie tant que ces 70 détenus seront toujours entre les murs.
Vous avez vu leurs photos sur les réseaux sociaux et les candidates pour Miss Tahiti viennent bien sûr au micro de Radio 1 et Thierry FM.
Mais oui, l'occasion de faire leur portrait et aujourd'hui on va entendre la numéro 6, Inaupoco Deves, qui fait partie des favorites pour la couronne. Demi-marquisienne par sa mère et française par son père, la jeune femme dit vouloir casser les codes des concours de beauté. Depuis toute petite, on lui colle l'étiquette de Miss ou de mannequin. Pour elle, Miss Tahiti, c'est l'occasion de montrer qu'on peut être belle et intelligente.
Ça me touche énormément que les personnes me soutiennent et se projettent loin. Mais je garde la tête sur les épaules, je prends cette positivité. Moi, je me dis juste que la meilleure gagne et puis que celle qui, entre guillemets, où la population se sent concernée par tout son discours, parce que je ne cherche pas à plaire pour mon physique, parce que c'est ce qu'on met beaucoup en avant, c'est pas ça mon but. C'est vraiment pas de m'arrêter sur un physique et que les gens se disent « oui, elle est belle ». Non, je veux que les gens disent que je sois belle de l'intérieur, que justement je rayonne de l'intérieur plus que je sois belle physiquement.
Rendez-vous le 31 mai pour la soirée de gala placée sous le signe de l'artisanat et puis le 27 juin pour la grande soirée d'élection à la mairie de Pirée.
On termine avec ces deux jours de fête du sport au Parc Vairey le week-end prochain. C'est Tahiti Sport qui fête ses 70 ans.
Oui, le programme est chargé. Une vingtaine de tournois, initiations et découvertes sportives seront proposées, de la pêche au toiro maori en passant par le foot, la pétanque, le volley ou le va'a. Tout ça pour fêter donc les 70 ans.